Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cet épisode vous est présenté avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2011 et c'est un épisode spécial numéro 69. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre et je m'appelle Patrick Béja. Je suis en train de faire un épisode spécial parce que je ne peux pas enregistrer au moment où nous enregistrons habituellement. Nous n'avons pas de live, ça va être un épisode beaucoup plus court. Contrairement à Upload, l'épisode numéro 69 ne sera pas sur un thème coquin, mais sur un thème très très sérieux. Et pour m'aider à discuter de ce thème très sérieux, j'ai deux invités de marque. Cédric Ingrand, qui est un habitué de l'émission. Comment vas-tu, Cédric ?
Salut Patrick, ça va très très bien.
Tu t'es pas en vadrouille là, tu es bien
non,
en France.
Non, je suis au bureau.
D'accord, je t'ai attrapé dans les 48 heures où t'étais en France en fait.
Tu m'as attrapé en transit.
D'accord.
Exactement.
Bon bah très heureux de t'avoir et je retrouve un invité qui était là peut-être je sais plus deux ou trois fois au tout début de l'émission mais qui a pas pu venir depuis parce qu'on enregistre le lundi et le lundi il est pris. C'est Eric de Presse Citron. Comment vas-tu Eric ?
Salut Patrick, ça va bien.
Très heureux aussi de te retrouver.
J'espère Eric, hein, puisque t'es de passage par ici.
Très heureux de vous avoir tous les deux, et effectivement Eric en particulier parce que ça faisait bien longtemps. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir Eric qu'on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui concerne les blogueurs en particulier, puisqu'on va parler de la controverse qui a sévi sur la toile cette semaine, qui était en gros à peu près la seule histoire vraiment importante. Bon, si on met de côté le licenciement sans prise de gants de Carole Bartz de Yahoo, je vais très vite aborder, juste citer les quelques autres histoires qui étaient importantes, et puis après on va se lancer dans l'histoire. Mm-hmm. Donc, Carole Bartz virée de Yahoo, Twitter annonce qu'ils ont 100 millions de comptes actifs par mois, ce qui était un petit peu une surprise pour moi. Je pensais pas qu'ils seraient aussi haut par mois, parce qu'ils n'avaient pas parlé de comptes actifs par mois jusqu'à maintenant. Donc
ça dépend comment tu comptes les comptes actifs.
Bah des gens qui utilisent le service ou qui lisent au moins le service une fois par
d'accord.
mois.
D'accord. Ouais, ça marche. Ouais. Ouais. On est d'accord sur cette définition là.
Ils vont pas c'est forcément poster. Ouais.
Ouais, ouais, exactement. Ouais,
mais cette définition me paraît un petit peu large et un peu généreuse parce que Twitter c'est quand même un média de l'instant où il y a une très grosse activité. Mmh. Et je ne sais pas si on peut considérer que quelqu'un qui se connecte une fois par mois à Twitter est réellement un tweetos actif.
Non, pas forcément. Mais par contre, là où ça dissipe un doute, c'est que c'est pas simplement 100 millions de comptes créés et qui ont été complètement abandonnés. C'est que les gens vont au moins consulter une fois de temps en temps. Donc je pense que c'est...
Bon. Alors par contre, il y a un élément qui est intéressant, c'est le fait que selon le PDG de Twitter, je crois que c'est 40% en fait des utilisateurs de Twitter ne tweetent pas, mais sont considérés quand même comme des utilisateurs car ils utilisent le site comme une source d'information, c'est-à-dire qu'ils y vont sans être actifs, ils ne publient pas de tweets, mais ils lisent. Et ouais. C'est ce qui fait dire à Twitter que le site est en train de devenir mainstream, c'est-à-dire grand public.
C'est pas faux. Oui, oui, on
c'est
peut
assez
voir
logique. Ça, hein. ça tient debout tout seul parce que de fait, il y a des gens qui ne font qu'une consommation passive de Twitter, ouais. Ne serait-ce que parce que il y a beaucoup aussi de. Il faudrait aussi compter tous les comptes automatiques qui publient les titres de presse, qui voilà.
C'est vrai.
Donc
aussi,
ça peut s'utiliser comme ça. C'est aussi la beauté de Twitter, c'est que c'est un outil tellement ouvert qu'il n'y a pas une façon de l'utiliser.
Oui. On enchaîne avec quelques news sur Facebook qui va peut-être lancer un service de musique qui risque d'être très important associé à d'autres services. En fait, ils le lancent pas eux-mêmes, mais ils s'associent à Spotify, Moog, Ardio, etc. Ils vont aussi ils sont aussi en train de tester des smart lists qui vont composer des listes d'amis, genre vos amis du boulot, vos amis qui habitent à côté de chez vous, vos amis qui sont, enfin votre famille, etc. Pour prendre le contre-pied de Google Plus, où il y a aussi des listes qui ont un rôle très important dans le service, mais où par contre il faut le faire soi-même à la main. Là, ça serait un regroupement automatique. On a entendu une rumeur selon laquelle les apps Windows Phone 7 pourraient tourner sous Windows 8. La rumeur n'est pas vraiment forcément de source très très crédible, mais par contre la possibilité est bien là, puisque Windows 8 tournera aussi sur les processeurs mobiles, comme les processeurs ARM. Google voudrait racheter Hulu, et peut-être plus que Hulu. Il y aurait des rumeurs selon lesquelles ils ont fait une offre énorme, plus que les autres. Hulu, c'est le service de vidéo très très populaire lancé par les studios de télévision aux États-Unis, donc qui a les droits de beaucoup de séries et beaucoup de vidéos, qu'elles soient séries ou films, que Google voudrait peut-être racheter et peut-être avoir des droits étendus.
C'est énorme, hein. Ça c'est énorme, oui. Parce que y a l'autre chose de la semaine, mais t'allais probablement en parler, c'est qu'ils ont racheté Zagat, hein, qui est ce guide culinaire, enfin ce guide gastronomique crowdsourcé, j'ai envie de dire, mais déjà dans sa version papier. En fait, c'est un guide qui est fait des critiques des visiteurs des restaurants, et pour la première fois on disait tiens, mais Google rachète des choses dans le contenu. C'est pas de la technologie, Zagat. Alors on le comprend, parce que tout à coup ça leur donne les droits à des avis sur des restaurants qui les intéressent pour Google Maps, pour plein de services, etc. Et puis là ça leur appartient en dur. Mais ça veut dire qu'ils vont se mettre à éditer un gros papier, un guide papier, ce qui est quand même assez choquant intellectuellement.
Et il n'est pas certain qu'ils le gardent, mais...
Ah, ils les peuvent. Non, c'est énorme, Zagat. C'est comme si tu me disais, on va arrêter de faire paraître le Michelin. Hein. Et là-dessus, on enchaîne sur Hulu, qui là aussi est un pur truc de contenu. C'est logique, il y a une logique éminente, c'est juste pas dans le portrait habituel qu'on se fait de Google, qui préfère plutôt le contenu généré par des machines.
C'est vrai. Et bon, on se doute bien qu'il y a une orientation dans la... Enfin, qu'il risque d'y avoir une orientation dans la gestion de l'algorithme sacro-saint de Google, et bon, enfin avec Google Plus,
c'est-à-dire,
et ce genre de choses.
C'est-à-dire
C'est-à-dire l'orientation, pas forcément algorithme uniquement, mais aussi une influence des avis. Et quand je parle d'avis, je parle de des plus one de Google Plus, par exemple,
ah oui,
ou d'ailleurs aussi d'autres origines aussi.
Ah ouais, grave.
Et des petites interrogations sur iTunes, et est-ce que ils vont faire du streaming ou pas sur iCloud. Donc est-ce que vous pourrez streamer les morceaux qui seront sur iCloud ou pas? C'est une discussion absolument interminable. Qu'est-ce qui constitue du streaming ou pas? Mais la possibilité est évoquée, et puis Apple a fait une sorte de rétropédalage, donc il y a peut-être un truc qui est en préparation là-dessus aussi, pas seulement pour l'audio mais aussi pour les séries télé, ce qui pourrait être intéressant. Et donc ça, c'était pour un résumé rapide de l'actualité de ces 10 derniers jours. Et on arrive à la grosse, grosse actualité de ces 10 derniers jours, qui est une sorte de feuilleton sans fin dans la Silicon Valley, qu'on va évoquer et sur lequel on va rebondir pour ensuite parler d'autre chose. Alors, le feuilleton, c'était le feuilleton TechCrunch Michael Harrington versus AOL et Arianna Huffington. Alors... pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que des auditeurs francophones ne connaissent pas forcément TechCrunch, mais c'est un énorme blog de la Silicon Valley et de l'industrie technologique en général, fondé par un jeune homme dynamique qui s'appelle Michael Harrington, et qui couvre principalement les startups. Et c'est vraiment la référence dans le monde des startups. Ils étaient un petit peu en concurrence avec Mashable il y a, je dirais même encore 12 mois, 18 mois. Et Mashable s'est un petit peu différencié et est devenu un petit peu plus grand public. TechCrunch est resté très très centré sur les startups. Et le blog a été vendu à AOL, qui est désormais dirigé par Madame Huffington, qui gère le Huffington Post, comme tout le monde le sait. Et il y avait une sorte de clash des cultures entre les deux. TechCrunch était généralement, à l'image de son fondateur, assez irrévérencieux et assez brutal, et AOL était plutôt consensuel. Alors tout le monde voyait venir une sorte de clash arriver à un moment, on se doutait que ça n'allait pas forcément fonctionner comme ça éternellement, et Harrington en fait a parlé depuis quelques mois d'une nouvelle aventure qu'il allait lancer, qui s'appelle le Crunch Fund. Le Crunch Fund étant un fonds d'investissement de venture capitaliste qui investirait dans les startups. Et là vous me dites, start-up investissement, blog qui couvre les startups, n'y a-t-il pas conflit d'intérêts?
Bah donc, oui, mais alors c'est à la fois plus simple et plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce que le métier d'Harrington avant, c'était d'investir de l'argent.
Tout à fait. Et le blog a commencé en tant que les pensées d'Harrington sur
exactement,
le.
Exactement, parce qu'il avait des choses à raconter sur ce qu'il voyait dans la Silicon Valley. Ce qui est bon, très bien. Il a continué à investir à titre privé dans des startups, mais en le disant clairement quand il parlait de ses startups sur TechCrunch, en disant voilà, je suis investisseur. Et là, je pense que le Crunch Fund, c'est un peu le produit des mauvaises relations d'Harrington avec AOL. Harrington est un garçon brillant, mais extrêmement abrasif. Ouais. Extrêmement, mais vraiment. Hein, limite désagréable. Mais brillant.
Limite désagréable, limite trollesque même parfois dans son ton. Il a tendance à être... oui, vas-y.
Moi, je connais des gens à San Francisco qui te diront « Ouais, non, Harrington, il est toxique. Oui. » Et il est très vite dans le rapport. Peu importe sa personnalité, en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, le jour où AOL a racheté TechCrunch, tout le monde s'est dit, ça va pas le faire.
Voilà.
C'est-à-dire que tout à coup, lui qui était seul maître à bord, s'est retrouvé dans une structure plus grande que lui. Et depuis le début, on a vu qu'il y avait des tiraillements, que TechCrunch est forcément jaloux de son indépendance, qui se comprend. Mais enfin, en même temps, une fois qu'on t'a racheté, ben on t'a racheté. Hein, donc tu appartiens à quelqu'un.
C'est un petit peu ça. Oui. Il a été payé pour le truc. Donc il a vendu sa propriété.
Absolument.
Très bien payé, même on connaît pas la somme, mais
c'est une trentaine de millions de dollars avec et c'est important pour la fin avec une clause de earn-out comme on dit, donc c'est une partie de la somme qui est subordonnée à des résultats et au fait que vous restiez dans l'entreprise X temps. Donc on sait pas ce que la situation actuelle fait pour son portefeuille, mais à un moment on s'est dit c'était peut-être une solution pour AOL de dire allez, on va mettre 10 millions de dollars dans un fonds pour vous.
Parce que AOL a investi dans le fonds Crunch Fund de Harrington, c'est un autre élément important.
Ah oui, non, tout ça est, enfin, c'est terrible. C'est peut-être ça, les 10 millions qu'ils lui auraient donné à la fin, ça lui donne une porte de sortie extrêmement honorable, tout le monde est content, etc. Bon, sinon qu'après, la crise rebondit à l'intérieur de TechCrunch qui veut rester indépendant, mais à la limite, ça va au-delà du sujet qui nous intéresse.
Oui, il y a effectivement eu une série d'allers-retours entre TechCrunch, AOL. Est-ce que Harrington fait encore partie de TechCrunch? Il est encore employé d'AOL? Certains ont dit certaines choses. Huffington a dit d'autres choses. Et finalement, bref, aujourd'hui, ça s'est développé en une sorte de crash assez, on peut le dire, assez violent. Les blogueurs de TechCrunch sont allés de leur avis. Harrington a posté un message. Enfin, ce type est vraiment brillant, comme tu le disais, Cédric. Il a posté un message où il se pose en victime. Business Insider a fait une analyse très pertinente où ils expliquent qu'en fait, TechCrunch donne une solution dans ce poste, dans cet article, à la crise, en disant, alors, AOL pourrait abandonner TechCrunch et je reprends TechCrunch et tout le monde s'en va content. Sinon, je me barre. Et
c'est énorme.
En fait, TechCrunch, enfin, il était déjà viré d'AOL. Donc, en fait, il a menacé de partir d'un boulot.
Il a dit, je m'en vais alors qu'il était déjà viré. Enfin, voilà. C'est merveilleux. Hein. La communication à l'intérieur d'AOL, c'est un bonheur.
Ce qui va être aussi difficile à gérer, c'est que les principaux rédacteurs de TechCrunch qui restent aujourd'hui, qui sont des blogueurs de TechCrunch comme MG Sigler ou d'autres, sont aussi en fait des gens qui menacent de partir si Harrington s'en va. Enfin donc ça n'arrange pas les affaires.
Ils menacent de partir si on remet en cause l'indépendance de TechCrunch, ce qui est pas forcément la même chose que Harrington s'en va, parce que Harrington, faut bien qu'il est clair qu'il n'allait pas rester là toute sa vie.
Harrington peut fonder un nouveau blog, récupérer ses auteurs et tout le monde.
Non. Ça par contre, grosse clause de non-concurrence.
Oui, mais enfin les clauses de non-concurrence, la légalité est toujours un petit peu.
Discutable. Chez nous, oui. Chez eux, non. Surtout quand tu vends ton entreprise, t'as pas le droit d'aller refaire la même chose à côté. Et surtout en débauchant les gens que t'as laissé à la main.
Ce qui est marrant en fait, c'est que Harrington ressurgit dans l'histoire de TechCrunch, alors que finalement on l'avait pratiquement oublié. Dans la mesure où depuis qu'il a vendu, et même avant, quand il avait nommé une rédactrice en chef, Heather Hard, je crois, il y a 3 ans, Il s'était déjà retiré, il écrivait beaucoup moins, et depuis que TechCrunch a été vendu à AOL, je crois que c'était en septembre 2010, enfin ou novembre 2010.
À peu près, oui.
Ouais, à l'automne 2010, pratiquement il écrivait plus. Enfin, moi j'ai dû voir un ou deux postes de Harrington, on savait plus trop exactement ce qu'il faisait. Il avait un poste de rédacteur en chef, mais ce poste était préempté par Arianna Huffington elle-même. Donc c'était pas très clair. Et en fait là, les problèmes ressurgissent maintenant que AOL a créé avec Harrington ce fonds, le Crunch Fund, dans lequel AOL, je crois, est largement majoritaire.
Et, sur la moitié, je crois, oui.
Ouais, et ça pose effectivement, ça pose des problèmes. Le gros débat, c'est les problèmes effectivement que posait Patrick en début d'émission, c'est-à-dire un problème éthique et de conflit d'intérêts entre une grosse machine maintenant d'information et le fait que dans cette machine, on ait quelqu'un qui place des actions dans les entreprises dont la machine parle.
Bah voilà, en fait, on arrive vraiment au cœur du sujet qu'on voulait évoquer dans l'émission, c'est-à-dire que la question a provoqué un débat entre les journalistes, entre guillemets, on va dire traditionnels, des gens du Times, du Wall Street Journal et l'ancienne garde de la presse classique.
Qui n'aura pas de tacler Harrington, excuse-moi, je ne te
Oui. Non, c'est vrai.
C'est ça le contexte. Hein.
Et alors j'ai un téléphone, quelqu'un qui m'appelle. Je vais raccrocher parce que
moi aussi j'ai un téléphone et je n'en fais pas grand cas.
Et donc il y a eu une sorte de débat presque philosophique sur la qui s'est porté sur la nature presque des blogueurs, parce que il y a beaucoup de gens qui sont blogueurs et qui disent: certes, un journaliste a un certain devoir éthique, un devoir de neutralité, mais les blogueurs, eux, sont différents. Les blogueurs, c'est des gens qui sont comme vous et moi, mais c'est pas forcément le cas, parce que on a du journalisme dans le podcast aujourd'hui. Mais je veux dire comme Monsieur Tout le Monde, sauf qu'un jour ils se mettent à écrire sur Internet, et un blogueur n'est pas forcément un journaliste. Mais à partir du moment où il y a un certain suivi, et dans le cas de TechCrunch, on peut parler de plus qu'un certain suivi, c'est une influence monumentale. Est-ce que les blogueurs ne doivent pas être soumis à certaines règles d'éthique et de neutralité, des choses comme le fait de refuser des relations quelle qu'elle soit avec les gens qui sont dans des sociétés c'est la question qui est posée.
Il y a plusieurs questions en fait, mais c'est intéressant. On va partir de cas réel, c'est-à-dire que il y a des grands principes qui se heurtent à la vie réelle. Et Harrington l'a rappelé, et là-dessus il a raison. Il a dit: attendez, avoir des conflits d'intérêts parce qu'on investit dans une boîte qu'on peut être amené à couvrir, moi je vois pas où est le problème tant qu'on reste transparent. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais ce que font d'ailleurs aussi, et là c'est des choses auxquelles les journalistes, surtout américains, s'astreignent. Par exemple, quand il y a un papier dans le Wall Street Journal qui a à voir avec une société dans laquelle Dow, qui est l'actionnaire du Wall Street Journal, est majoritaire, il y a une petite note de bas de page disant Dow, qui appartient au Wall Street Journal, était majoritaire, etc., etc.
Oui, mais là c'est particulier parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas éviter, mais les journalistes eux-mêmes essayent quand même, avec beaucoup d'assistance, de ne pas s'associer. Enfin, il y a des règles comme, par exemple, on ne peut pas recevoir de cadeaux, de produits de test en cadeau. On ne va pas accepter un billet d'avion. Bien sûr, tout le monde ne s'y conforme pas. Mais il y a des gens qui vont te dire, moi, je ne peux pas accepter un billet d'avion pour aller à une présentation à tel endroit, que ce soit, par exemple, Google fait une présentation, Apple fait une présentation, ils vont inviter des journalistes, certains vont dire, moi j'y vais, mais je paye mon billet. Et je ne peux pas même accepter que le billet soit offert par la société qui m'invite. Donc, il y a quand même certaines règles.
Pour donner un peu de contexte, je connais un média en France dont c'est le cas.
Mais c'est
intéressant.
Mais c'est une tradition peut-être un peu plus anglophone, c'est vrai.
C'est une tradition plus anglo-saxonne. Mais ici, on a des règles. Je peux te dire, par exemple, que voilà, c'est pas un secret, c'est affiché dans le couloir. La charte de déontologie à TF1, c'est de dire, on n'accepte pas de cadeaux qui pourraient remettre en cause ta probité. En clair, voilà, ça le mérite d'être. Bah, à la fois, je crois qu'il fut un temps, je sais pas si c'est encore le cas, c'était chiffré. On disait, on peut pas recevoir un cadeau de, je sais pas quelle était la somme, mais en gros, c'était un peu aligné sur sur ça coûte combien un joli bouquet de fleurs, quoi. Voilà, c'est parce que bon. Dans ce que dit Harrington, il dit voilà, moi mes conflits d'intérêts, ils ont le mérite d'être transparents. Que dire de conflits d'intérêts comme on en trouve chez au Wall Street Journal ou Kara Swisher.
Je parlais de Kara Swisher.
Ouais. Voilà, évidemment, mais qui est la, voilà un autre type de conflit d'intérêts. Elle est mariée à un cadre très supérieur de chez Google. Alors elle dit voilà, ma compagne travaille chez Google, c'est ainsi, on s'en parle pas ou peu. Je fais en sorte de, j'essaie de ne pas couvrir des choses qui me mettraient dans une position de conflit d'intérêts. Elle détient des actions Google, je n'en détiens pas, etc., etc.
Donc est-ce que ça veut dire que tu penses que dans ce cas-là, par exemple, le conflit dans le cas de TechCrunch Crunch Fund ne serait pas un problème? Tu penses qu'ils peuvent qu'ils pourraient investir et à la fois être chez TechCrunch?
Je pense que l'objectivité, ça n'existe pas. Je pense que tout ce qu'on peut demander, et ça, c'est que qu'on soit journaliste ou blogueur, c'est de l'honnêteté.
Ouais, d'accord.
Voilà, c'est tout. Parce que l'objectivité absolue, c'est un truc qui n'existe pas, même pas en journalisme. Sauf à, peut-être et encore dans des dépêches AFP, quand on reste dans le pur factuel et qu'on s'oblige à être complet.
Oui, ça, mais il y a une différence entre l'objectivité absolue et dans ce cas-là, enfin, c'est quand même un conflit d'intérêts qui est peut-être plus clair que.
Éteins ton téléphone.
Oui. mais tournons-nous vers quelqu'un qui est un vrai blogueur, qui est peut-être confronté aux problèmes tous les jours, parce que bon, le cas d'un journaliste, à la limite, on peut se dire on pourrait faire comme ci et comme ça. Pour les blogueurs, les règles ne sont pas établies. Eric, toi,
mais,
par exemple.
Alors, je t'arrête parce que elles ne sont pas pour les journalistes non plus. Il n'y a pas de règles écrites.
Bien sûr.
Il se trouve que moi, je suis dans un média où il y a des règles écrites parce que c'est une grande rédaction et qu'à un moment, il a fallu coucher les choses sur papier. Il y a une charte de déontologie qui est celle de la commission de la carte. Mais la commission de la carte, elle a absolument aucun pouvoir à part celle de ne pas t'accorder une carte qui ne sert pas à grand chose de toute façon. Il y a pas d'ordre national des journalistes. C'est quelque chose qui est évoqué souvent, hein, la création d'un ordre où, tu serais membre et le jour où tu fais une connerie, t'es exclu comme les médecins, comme les avocats. Mais on n'en prend pas le chemin parce que là aussi il y a des dérapages de déontologie majeurs. J'ai des noms de confrères en tête qui ont fait des trucs. Enfin voilà, moi je me souviens des années 80 avec il y avait des avions payés par des politiques pour aller. Enfin bref, bon, là c'est clair.
D'accord.
Le problème c'est pas ça. Le problème c'est justement par exemple, imaginons.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Que je partage mes jours avec quelqu'un qui travaille pour la communication d'un groupe qui... Voilà. Le problème, c'est ces petits problèmes de déontologie du quotidien.
Eric,
moi, je pense que
je te donne la parole.
Effectivement, comme le dit Cédric, l'objectivité absolue n'existe pas. En plus... c'est peut-être un des points de différence entre les blogueurs et les journalistes. C'est effectivement les blogueurs ont plutôt tendance à revendiquer une certaine subjectivité, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises quand on me pose la question. Un journaliste ne parle jamais à la première personne, un blogueur parle toujours à la première personne. C'est d'ailleurs ce qu'on remarque encore dans TechCrunch, qui est, comme je le disais tout à l'heure, une très grosse machine et qui reste quand même, qui garde cet esprit blog, puisque si vous lisez les articles des rédacteurs, et même des plus importants, il y a une grosse part de subjectivité, il parle à la première personne, etc. Et il garde...
C'est vrai que j'avais jamais pensé à cette question de personne personne employée et les blogueurs parlent toujours la première personne. Ouais.
Et ils gardent TechCrunch cet esprit qui était un peu la phrase de la semaine, c'est la fuck you attitude, c'est-à-dire voilà, vous l'avez compris. Et voilà, donc ça c'est la partie subjective. Après, je pense qu'il y a donc il y a une question d'intégrité personnelle, c'est-à-dire qu'il faut être à l'aise avec avec son métier et avec ce qu'on en fait, avec les relations aux marques. Et effectivement, la question se pose fréquemment, notamment pour les blogueurs qui sont souvent des gens qui travaillent de façon indépendante et qui sont en prise directe avec les marques, contrairement peut-être à des journalistes qui ont quand même dont les missions sont cloisonnées puisqu'ils sont pas en contact forcément directement avec les annonceurs, etc. ce qui est pas mon cas par exemple. Moi j'ai un blog qui tourne pas trop mal, c'est une PME, enfin une TPE, je gagne ma vie avec, et effectivement je suis aussi en contact avec des marques régulièrement. Après, il y a une question de moyens aussi, c'est-à-dire que il y a effectivement peut-être un seul média en France, comme le disait Cédric, qui paye ses billets d'avion. C'est peut-être un média aujourd'hui, certainement un gros média ou un gros titre de presse qui a encore qui a les moyens de le faire. Moi, si demain je veux couvrir une conférence avec un ou deux rédacteurs importante à San Francisco, j'ai absolument pas les moyens de le faire, quoi. C'est
non, bien sûr, ça c'est peut-être un cas extrême, mais par exemple, si on te passe un appareil pour le tester, est-ce que tu vas le garder, est-ce que tu vas le rendre, est-ce que tu le fais gagner, enfin là aussi c'est
alors
c'est...
là c'est, moi c'est très clair, c'est, je considère toujours que ce sont des prêts, d'ailleurs c'est toujours le cas, et c'est la première question que je pose quand on me propose de me prêter un matériel, c'est quelles sont les modalités pour vous le retourner, dans la mesure où j'habite en province et que je veux pas non plus en être de ma poche pour retourner le matériel. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de payer des chronopostes pour renvoyer du matériel. Après, il y a quelques cas exceptionnels où une fois que vous avez fait le test de façon tout à fait objective, que vous en ayez dit du bien ou du mal, ou que vous soyez resté totalement neutre, la société ou la marque qui vous a prêté le matériel vous dit vous pouvez le garder. Dans ce cas-là, c'est une affaire personnelle. Soit on le garde, soit on en fait profiter des gens autour de soi, soit ce que je fais assez fréquemment, je le fais gagner par l'intermédiaire d'un concours sur le site.
Ouais. Donc le simple fait que effectivement ça soit un principe que tu observes, ça veut dire qu'il y a une question d'éthique qui se pose même pour les blogueurs quand même. Donc il y a une certaine éthique qui devrait être suivie selon toi, j'imagine, par les blogueurs.
Bien sûr, c'est évident, c'est absolument évident. Alors je ne sais pas si tout le monde fait pareil, mais en tout cas moi je le fais. Après il y a aussi, alors on en parlait tout à l'heure, il y a les voyages. Bon, moi je suis invité très régulièrement à des voyages de presse. Et pour ne pas le nommer, je pars après-demain à Los Angeles pour la conférence Build de Microsoft. Mm-hmm. Et effectivement, le déplacement est pris en charge par la société. Oui. Mais c'est une invitation à laquelle je suis convié en tant que blogueur. Je suis le seul blogueur parmi une vingtaine de journalistes. Et je pense qu'ils sont tous logés à la même enseigne et qu'ils sont tous invités par Microsoft. Donc il n'y a pas de conférence fondamentale.
J'y serai pas, moi. Mais, ouais. mais oui, bien sûr. Oui, enfin.
Et voilà, donc après, moi il m'arrive très fréquemment, quand j'ai la possibilité financière de le faire, et notamment habitant à Lyon, d'être invité fréquemment à des conférences de presse ou des présentations ou des événements à Paris, je paye mon TGV, ça me coûte à chaque fois 180€ plus parfois une nuit d'hôtel, et ça c'est à mes frais. Donc c'est en fonction de l'intérêt de l'événement, il arrive de temps en temps qu'on me dédommage, mais je dirais que c'est pas la majorité des cas.
Alors, toi, en tant que blogueur, par rapport à... Bon, Cédric avait l'air d'être assez...
Tout pareil, assez... hein, vraiment. Non, mais tout pareil.
Non, mais sur
on peut même rentrer dans le détail. Hein, c'est-à-dire que la chose à laquelle on peut s'obliger en tant que journaliste face à ce genre de truc, c'est là encore, c'est de se dire où est le curseur, quoi. C'est-à-dire, j'ai des vieux souvenirs de presse magazine il y a longtemps, comme ça m'évitera de citer des noms, où j'ai vu des gens accepter des voyages qui, là, pour le coup, ressemblait, en tout cas vu de loin, à de purs voyages d'agrément.
Il y a une époque où les relations presse avaient beaucoup d'argent au summum de l'ère .com. où on faisait, où il y avait effectivement des trucs où ça partait dans les îles et s'amuser.
Voilà. Ça c'est fini. Mais en même temps, le comment dire, l'incestuosité des relations avec les marques, elle est aussi fonction du professionnalisme des marques. C'est-à-dire, moi, il m'est arrivé de répondre à des invitations, même pour des trucs pas loin d'ailleurs. Et puis finalement de pas faire grand chose avec ce qu'on avait tourné sur place, parce que une fois sur place on s'apercevait que ça avait pas beaucoup d'intérêt. Alors je te rassure, c'est des trucs sur des allers-retours dans la journée. Ce qui est bien quand tu fais une émission hebdomadaire, c'est que t'as pas beaucoup de temps à perdre. Là où moi ça a pas posé de soucis, je leur ai dit bah oui mais voilà, vous comprenez, ça c'était pas nouveau et puis on n'a pas eu d'interview. Alors bon, c'est vrai que c'est plus dur de résister, pour des gens qui travaillent dans des médias moins établis, et on a tous eu des échos de blogueurs qui se font pourrir par les marques pour des papiers, soit des papiers négatifs, soit etc. Moi, j'entends régulièrement des gens qui disent « Ah oui, machin, il m'a appelé, et il m'a dit « Tu retires ta note maintenant ».
Oui, c'est sûr que voilà. ça existe aussi, ça va dans les deux sens, c'est pas faux.
Évidemment, donc c'est pas grave, c'est juste des gens avec qui il faut arrêter de travailler. Donc c'est des questions qui sont constantes, j'ai envie de dire, dans l'esprit des journalistes et dans l'esprit des blogueurs honnêtes.
Vas-y Eric, pardon.
Non, c'est ce cas extrême que cite Cédric, je le connais pas. Alors peut-être aussi parce que j'ai une règle de conduite qui fait que j'évite de dire des choses désagréables quand quelque chose ne me plaît pas. C'est pas du tout par déférence, mais simplement j'estime que en fait, comment dire, moi je suis là pour relater des faits. Il m'arrive parfois de, pareil comme Cédric, mais c'est surtout sur du matériel, de recevoir du matériel que je trouve totalement sans intérêt.
Et donc,
à ce moment-là, il y a deux solutions. Il y a ceux qui le testent et qui démolissent complètement le truc. Mais je trouve que c'est pas une démarche très intéressante dans la mesure où j'ai aussi l'impression qu'on a l'excès inverse, c'est-à-dire des gens qui parfois démolissent un peu les marques pour le plaisir de le faire et pour montrer une certaine irrévérence. Donc je pense pas que ça soit une attitude beaucoup plus éthique que celle qui consiste à être trop complaisant. Donc, je pense qu'il faut trouver.
Oui, ces gens, regardez, nous on est indépendants, donc on peut cracher à la gueule de. Oui,
voilà. D'accord. Et moi, il m'arrive assez fréquemment de recevoir du matériel, de le trouver sans intérêt ou de le tester et de pas accrocher du tout, d'avoir l'impression de perdre mon temps parce qu'un test c'est long, c'est fastidieux, parfois c'est un peu pénible.
Ouais.
Et dans ces cas-là, au bout d'un moment, je remets la machine dans son carton, je la renvoie et je publie rien. Voilà. Donc
Donc
j'ai pas eu le cas d'une marque qui me serait tombée dessus à raccourci en me disant faut dégager ça. Ouais. Et de toute façon, je sais pas si je voudrais pas être présomptueux, mais je pense pas qu'il faudrait qu'il s'amuse à le faire parce qu'il serait à mon avis très mal reçu.
Bah toi t'as un gros blog, donc c'est peut-être une situation un peu différente. Mais pour conclure peut-être en revenant sur Harrington et TechCrunch, Cédric, t'avais l'air de dire que c'était quand même un petit peu qu'il n'aurait pas été si gênant que ça finalement, qu'il gère le Crunch Fund tout en restant chez TechCrunch. Je vais te redonner la parole à la fin, mais
vas-y.
Mais je voudrais poser la question à Eric, qui finalement, bon, t'es le je sais pas qui est le premier blog, décidément, je sais pas si t'es le premier blog ou le deuxième blog en France, et vous tirez la bourre avec Corben, mais en tout cas, t'as l'un des blogs les plus influents en France, donc la chose est un petit peu comparable, peut-être. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette affaire, finalement, entre Harrington et TechCrunch?
Alors en fait, moi j'ai deux lectures de la chose. D'abord la première, et ça c'est un peu anecdotique, mais finalement je trouve assez rassurant que dans un système qui est quand même un système de gros business à l'américaine, on soit capable de se poser ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fait, les USA sont, enfin les Américains visiblement ne rigolent pas avec l'indépendance et avec une certaine éthique. Je crois que c'est le pays du prix Pulitzer, donc ça veut certainement dire quelque chose. Donc ça, c'est finalement.
Ça a fait un ramdam pas possible.
Ouais,
c'était une énorme affaire.
Hein. Ouais. Donc ça a effectivement eu le mérite de relancer un petit peu un débat sur la question de l'éthique, de l'indépendance, des blogueurs versus journalistes. Après, moi, ma deuxième lecture, c'est de dire en fait que je m'aperçois qu'il est difficile de me positionner parce que je m'identifie un petit peu à tout ça et je suis un peu dans cette position. Moi, le fait que je suis un peu comme Cédric, c'est-à-dire que le fait que Harrington soit investisseur dans le Crunch Fund et qu'en même temps il soit rédacteur en chef de TechCrunch, ça me choque pas outre mesure. Par contre, si on plaçait un contexte similaire dans un grand média français, je pense que je ferais partie de ceux que ça dérange.
C'est marrant quand même parce que c'est parce que c'est loin, c'est parce que
non, c'est parce que non, c'est pas parce que c'est loin, c'est peut-être parce que c'est près justement. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends, je suis plus à même de comprendre le fonctionnement d'un TechCrunch et d'un Harrington à mon petit niveau, et je comprends son indépendance. En plus, c'est vrai qu'on l'a vu, c'est quelqu'un de rugueux, qui est totalement iconoclaste et qui est souvent effectivement dans le conflit et qui a pas peur d'envoyer balader qui que ce soit. Donc je me dis que c'est...
Alors est-ce que c'est parce que c'est un cas particulier, ça serait lui, mais quelqu'un d'autre, là encore, ça serait pas forcément aussi acceptable.
Peut-être. Lui, il est fondamentalement, après on en pense ce qu'on en veut, mais moi, l'image que j'ai de lui, je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un de fondamentalement indépendant. C'est un esprit.
Oui, je comprends.
Voilà. Donc à partir du moment où on est comme ça, ça me choque moins que quelqu'un qui va essayer un petit peu de nager entre deux eaux. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas de cas, je peux pas comparer, mais je sais pas si j'apprenais qu'un grand média français a des accointances, émet place des pions, je sais pas, je dis n'importe quoi, une revue automobile qui en même temps est actionnaire de Renault, Peugeot et Porsche, ça me dérangerait un peu plus.
Ou l'inverse. Si Renault était actionnaire de l'Autojournal, là, ça poserait des problèmes immédiats. Mais clairement. Même si ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, parce qu'en fait, le crunch fund, c'est 20 millions de dollars, et 20 millions de dollars, c'est peanuts. Oui. C'est 20 millions de dollars, c'est pocket money.
Bah, c'est peanuts, oui et non. Disons que si il y a une petite start-up dans laquelle ils investissent 500 millions ou 1 million de dollars, 500 000 ou 1 million de dollars. C'est effectivement pas énorme, mais si tout à coup TechCrunch se met à en parler toutes les semaines et à l'encenser, ça peut la ont un réel pouvoir.
Bien sûr, c'est exactement ce qu'a dit Harrington. Il a dit je peux pas imaginer, alors c'est mignon de sa part, mais moi je peux l'imaginer, que des startups qui vont aller chercher de l'argent auprès du crunch fund se disent non seulement s'ils me filent de l'argent j'aurai de l'argent, mais en plus je serai couvert dans TechCrunch, parce qu'évidemment tout ça doit aller ensemble. Mais là j'ai envie de dire que le conflit d'intérêt, il est dans l'œil de celui qui regarde plutôt. C'est pas un problème interne.
D'accord.
Donc on a tous des raisons de se poser régulièrement la question de ça, est-ce que c'est bien de le faire ou pas, ou est-ce que voilà, c'est honnêtement assez compliqué. Et finalement les problèmes sont pas différents. Les problèmes, ils sont différents pour deux trucs. entre les blogueurs et les journalistes, il y a d'abord des blogueurs, j'en connais, qui en ont fait une profession. Je parle que de blogueurs ou de blogs professionnels, parce qu'évidemment on va pas, parce que blogueur en soi ça veut rien dire. C'est une grande discussion que j'ai eue avec je sais plus qui il y a pas très longtemps, en disant si blogueur c'est avoir un login sur WordPress, c'est pas ça ne veut rien dire.
Oui, non, c'est
un outil, voilà. Parmi les gens qui en font profession, il y en a qui te disent très clairement, ah oui, mais par exemple, j'en ai vu, que je nommerai pas, mais c'est des amis, qui arrivent à un événement et on leur dit, bah, allez prendre un badge presse. Ah, mais moi, je suis pas presse, je suis blogueur. Alors, pour l'organisateur de l'événement, c'est pareil, hein, bonnet blanc, tout ça. Ah oui, non, mais c'est pas pareil, notre métier est différent. Oui, alors c'est vrai, c'est ce que disait Eric tout à l'heure, c'est ce côté tout à la première personne. Pourquoi pas, mais j'ai vu le mauvais pendant de ça, c'est des blogueurs qui vous disent, ah oui, mais moi je ne suis pas soumis aux mêmes règles de déontologie que les journalistes, parce que je ne suis pas journaliste. Bah oui, mais enfin bon, la probité, c'est bon pour tout le monde.
Mais dans une certaine mesure, moi je me considère pas comme un journaliste, et c'est d'un côté, j'ai pas la même rigueur, je veux dire, dans les émissions, je suis on va dire, connaisseur du milieu de la tech, mais je me considère pas comme un journaliste. Pour moi, ce que je dis n'a pas valeur d'analyse journalistique, et en même temps, j'essaye d'être sérieux quand même, mais je me soustrais à certaines des contraintes aussi des journalistes. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, quoi.
Mais ce n'est gênant qu'à partir du moment où c'est pas transparent.
Ouais.
Voilà.
C'est vrai.
On tombe là-dedans quand et là on sera tous d'accord. Il faudrait qu'on aille chercher des blogueuses de mode et vous verrez ce que c'est que la vie. Ouais.
C'est un énorme problème, ça, les blogueuses de mode, effectivement, qui ont beaucoup de succès et qui sont sponsorisées par des marques pour énormément de choses.
Oui, c'est ça, pas que. Et là, on tombe dans un truc qui est plus proche du commerce que du média, quoi. Moi j'ai eu la chance de travailler dans des rédactions où il y avait une espèce de mur de verre entre la publicité et l'éditorial. Alors parfois, je me souviens en presse magazine, là où je travaille, les gens de la pub, je les connais même pas, donc c'est simple. Enfin si, je les connais de tête, mais c'est vrai que dans des plus petites rédactions magazines, moi je me souviens, ne serait-ce que du chef de pub qui vient de voir en disant tiens, vous parlez de quoi le mois prochain. Bon, ouais. Jusque là ça va.
Cédric, on va devoir conclure parce qu'Eric est pressé. Donc si t'as deux mots pour la
bien
fin.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive parfois maintenant à regarder des blogs sur la mode et puis pas que la mode, hein, sur plein de trucs où tout ça est tellement perméable qu'on ne sait plus trop ce qu'on lit, quoi. On sait plus est-ce que c'est une note de blog sponsorisée, est-ce que c'est de la pub pure et dure, est-ce que c'est un truc purement éditorial. Et là, il n'y a pas la transparence qui permet au lecteur, parce que le lecteur, lui, il n'est pas dans ces débats-là. Lui, il voit du contenu et il a tendance à, au moins de prime abord, le penser honnête. Et ben le service qu'on peut rendre au lecteur, quelle que soit la position d'où on écrit, c'est d'être honnête et transparent.
D'accord. Bah écoute, effectivement, ça peut être une bonne conclusion. Le débat pourrait durer très très longtemps, mais la chose sur laquelle tout le monde sera d'accord, c'est que quoi qu'il arrive, la transparence et l'honnêteté, enfin le fait de dire l'origine de la chose est extrêmement importante et c'est ce qu'on en retiendra.
Mais bah, merci. Il y a un mot pour conclure rapidement. Un mot très fort dans le vocabulaire américain, c'est le fameux disclosure, c'est-à-dire j'écris quelque chose, mais je dis si il peut y avoir un conflit d'intérêt. En général, c'est une notule ou en bas de page, donc ou même au début, hein, même sur TechCrunch France à l'époque de Royal Oyon, c'était assez régulier parce que c'est vraiment quelque chose qui est courant. Moi, pour conclure de mon côté. Quand Cédric disait qu'il se soustrayait parfois à certaines règles, moi je fais un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que je regarde un peu comment fonctionnent les journalistes, autant dans ceux que je rencontre que dans ceux que je lis, et j'essaye parfois de m'inspirer et de me dire voilà, là c'est quelque chose, c'est quelque chose sur lequel je dois apprendre, parce que je trouve qu'il y a quand même quelques règles qui sont vraiment intéressantes à observer et à appliquer. Et puis Cédric parle aussi du mur de verre entre la rédaction et la régie et la publicité. Je disais moi tout à l'heure que c'était beaucoup moins cloisonné parce que c'est une affaire, en tout cas en ce qui me concerne, unipersonnelle. Mais en fait, il y a quand même aussi une espèce de cloisonnement dans la mesure où la majorité des contrats publicitaires traités sur Presse Citron le sont par une régie. Si bien que c'est la régie qui traite avec les annonceurs. Moi, je ne suis pas en contact avec eux. J'ai quelques contacts directs avec des annonceurs, je le dis aussi. Mais la plupart sont traités avec une régie. Et donc, en fait, j'y fais pas vraiment attention. Je me suis aperçu par exemple cette semaine que j'avais fait deux articles où je disais pas forcément beaucoup de bien de Samsung, et en même temps sous les yeux j'ai une publicité Samsung.
Ça c'est le problème de la pub contextuelle.
Ouais, effectivement. D'accord. Bon bah écoutez, discussion fort intéressante, comme je le disais, elle pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais c'est vraiment un mini épisode qui est là pour remplacer celui qu'on ne fera pas au moment habituel. Donc,
feignant.
Un énorme merci à vous deux d'avoir répondu présent à l'appel. Comme d'habitude, je vous donne la parole pour dire où les auditeurs peuvent vous suivre quand vous n'êtes pas dans l'émission, en commençant avec Cédric peut-être.
Cédric sur Twitter, plutôt sur Google+, parce que c'est plus rigolo en ce moment. Et puis plein écran toutes les semaines, 13h10 sur LCI, en attendant que ce soit en clair.
Eric,
bah moi vous pouvez me suivre sur le blog pressecitron.net, et je fais une mention spéciale sur un article que j'avais écrit il y a quelques années qui s'appelait, alors vous pourrez le retrouver en faisant une recherche soit dans Google soit dans Presse Citron, dont le titre est la fable du blogueur qui aurait mangé un journaliste. Voilà, donc j'explique un petit peu mon point de vue sur la question, un petit peu comme on vient de le dire à l'instant.
Très intéressant, c'est tout un programme. Je vais filer lire ce un journaliste. Je suis en train de rechercher et je vais le lire dès qu'on aura fini. Donc la fable du blogueur et du journaliste, c'est ça ?
La fable du blogueur
qui aurait mangé un journaliste. D'accord, très bien. Merci à toi, Eric. Pour ma part, c'est patrickbeja.com et vous trouverez tous les liens vers les réseaux sociaux et les choses comme ça sur mon site. Et je vous encourage évidemment tous à aller sur le site nowatch.net. Et si vous passez par là-bas, vous pouvez cliquer sur la bannière de notre sponsor, qui est totalement déontologique et indépendant, puisque c'est la boutique Nowatch, qui n'a pas grand-chose à voir avec Nowatch, hein, mais vous pourrez y trouver des articles de mode extrêmement saillants, que je vous recommande très chaleureusement. Donc allez faire un tour là-bas. Si vous achetez un article, évidemment, ça vous fera plaisir à vous, parce que vous aurez un truc super cool, et ça nous fera plaisir à nous, parce que ça nous aide à continuer ce qu'on fait. Eh ben écoutez, c'est la fin de l'émission. Je remercie encore mes invités, je remercie les auditeurs de nous suivre régulièrement et promis, dans deux semaines pour la prochaine émission, ça sera une émission normale avec une longueur normale et tout plein de sujets différents. Merci à vous tous et à dans deux semaines. Ciao ciao.
Merci Patrick.
Salut.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.